Je suis en compagnie de Jeannette Lin. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Nous parlons de la thèse en philosophie que tu as soutenue en juin 2023, une thèse en anglais qui s'appelle A Theory of Zone, Conceptualizing Space in the Planetary Area. J'aimerais d'abord, pour parler de cette enquête philosophique de la zone dans la pensée occidentale, savoir d'où vient cette idée, c'est-à-dire de faire une sorte de généalogie de ta thèse et de ce concept original de zone, donc de manière générale, avant que nous entrions dans le détail.
Très bien, ben, merci beaucoup Dominique de me recevoir dans cette émission. J'en suis vraiment extrêmement honorée et ravie, d'autant plus de parler donc d'un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant de très nombreuses années, puisque ce travail de thèse, c'est un travail que j'ai commencé en réalité quand j'étais déjà étudiante en master. Et donc pour revenir à ta question sur ma rencontre avec la zone, disons que c'est d'abord une rencontre avec un film, qui est donc le film Stalker d'Andrei Tarkovsky, film iconique, emblématique et absolument central dans l'histoire du cinéma, et donc de la rencontre avec cette figure de la zone dans ce film, et une question apparemment toute bête, une question peut-être même simpliste de savoir mais pourquoi donc cet espace dans ce film qui s'appelle La Zone, un espace donc mystérieux qui contrevient aux lois physiques et qui est d'un point de vue narratif le lieu où peuvent s'exaucer les souhaits, y compris les plus secrets de ces visiteurs et de ces visiteuses. Et donc cette question de pourquoi cet espace s'appelle-t-il la zone se posait à moi parce que d'une part j'avais l'impression que le terme de zone était un terme qui revenait dans notre quotidien et qu'il proliférait de plus en plus avec d'une part la multiplication de zones géographiques, urbaines, politiques, économiques et aussi mais que au-delà de simplement d'une multiplication empirique de zones dans notre au quotidien, il y avait aussi une multiplication sémantique du terme qu'on parlait, que ce soit dans les sciences entre guillemets dures de l'émergence de concepts de zone humide, zone écologique, de zone critique dans les sciences du système Terre, mais aussi dans le domaine des sciences humaines avec par exemple la notion de citoyen de seconde zone, avec l'idée de zone de contact, de zone frontière dans les études postcoloniales par exemple, et puis aussi dans les humanités littéraires. Donc j'ai parlé du concept de zone de contact dans les études postcoloniales, mais également dans la création artistique contemporaine. On pense évidemment au poème Zone d'Apollinaire qui marque l'entrée dans la modernité littéraire jusqu'aux succès les plus récents d'Alain Damasio avec La Zone du Dehors, Les Furtifs. Et je pourrais même mentionner qu'il y a de nombreuses maisons d'édition qui portent le nom de Zone. Et donc, il y avait cette inflation comme ça de ce terme de zone qui aussi est très présent dans notre d'un point de vue politique aujourd'hui, qui résonne en fait dans notre imaginaire politique avec évidemment les zones à défendre et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais également avec l'émergence de zones d'autonomie comme le Chiapas ou comme au Mexique ou le Rojava en Syrie. Et donc une question pour moi se posait d'autant plus avec l'idée que la zone, voilà, par sa prolifération, était quand même, pouvait être abordée comme un symptôme de notre perception, conception, de notre rapport à l'espace dans notre expérience quotidienne, dans notre moment présent, et que ce terme donc, s'inscrivait au cœur donc, de notre expérience contemporaine, et qu'en même temps, personne vraiment ne savait dire c'est quoi une zone. Pourquoi on utilise le terme zone et pas le terme de territoire? Pourquoi pas on utilise le terme de lieu, de région, qui sont en fait des concepts qui, eux, ont fait l'objet d'enquêtes philosophiques et historiques précises. On pense que le concept de territoire est un concept qui a été énormément étudié de par son lien avec la naissance de l'État moderne et de l'idée de souveraineté étatique. Le concept de lieu, c'est aussi un concept qui a été énormément étudié par rapport à son ancrage à l'expérience phénoménologique qu'on peut faire de la spatialité. Et souvent, on opposera d'ailleurs une expérience du lieu, du local, contre les forces aliénantes de la mondialisation, du global, et on va faire jouer ce concept contre celui de global. Et que donc, il n'y avait pas, à l'heure actuelle, d'études similaires sur le concept de zone, alors même que ce terme s'inscrivait, je trouve, de manière de plus en plus prégnante, vraiment, et avec donc cette hypothèse qu'il y avait peut-être là quelque chose qui se jouait de notre contemporanéité et qui nécessitait donc de mener l'enquête.
J'aimerais qu'on parle d'abord de cet article qui est paru dans la revue Les Temps modernes, que tu as écrit, qui s'appelle « Qu'appelle-t-on zone à la recherche d'un concept manqué ?» Parce qu'il fait bien, justement, ce travail de recherche lexicale et historique du mot « zone », dans lequel ça te permet d'identifier l'absence de conceptualisation du terme « zone », ce que, dont tu viens de nous parler. Et alors, on pourrait le qualifier, cette absence de conceptualisation, sous les termes de « flottant »,« équivoque », »,« obscur », et tu identifies le fait qu'il est le plus souvent confondu avec le terme d'espace.
Alors, merci beaucoup déjà de faire référence à ce travail, enfin cet article qui date de 2017 hein, et qui est donc un article que j'ai publié à la charnière entre justement ce travail que j'avais mené au cours de mon master de philosophie et mon travail de thèse. Et quand je relis cet article, je me rends compte que, en fait, mon travail de thèse n'a consisté qu'à dire la même chose en 400 pages. Bon, évidemment, avec quand même un cadre théorique beaucoup plus appuyé, des études de cas qui se multiplient et un argumentaire qui se précise. Mais en tout cas, ce qui est frappant par rapport au terme de zone, qui n'est peut-être pas le cas du terme de territoire ou de lieu, c'est que la zone elle-même, en fait, charrie une indétermination. Et donc, tout le problème, c'est comment déterminer quelque chose qui est précisément opère pour dans des contextes où c'est de l'indétermination dont il est question. Alors, c'est une question méthodologique, évidemment, et il ne faut pas tomber dans le piège de dire, bon, eh bien, l'infini est un concept que l'on ne peut pas définir, parce que ce serait croire que le concept est à l'image, est à sa propre image, et dans ce cas-là, on peut tomber dans des sortes de sophismes du style bah, « le concept de chien n'aboie pas ». Donc, l'indétermination de la zone ne doit pas nous empêcher d'en faire une enquête conceptuelle et d'essayer de le déterminer, ne serait-ce que par son détermination même. Donc, pour revenir à ce travail, donc ce travail de recherche lexicale, ce qui ressort, en fait, quand on étudie à la fois l'étymologie du terme de zone, qui donc vient du grec, qui veut dire la ceinture portée par les femmes, zonée, et qui rapidement désigne dans la cosmologie grecque antique les ceintures terrestres, c'est-à-dire les cinq bandes de la Terre, qui sont déterminées par rapport à leur position au soleil. Donc on va parler de zone torride, de zone tempérée et de zone polaire. Mais donc ça, c'est son, disons, l'origine du terme, si on regarde ensuite son évolution historique et jusqu'à ses usages contemporains, ce qui ressort de manière très frappante, c'est que le concept de zone est presque inévitablement un terme qui est complété par un adjectif qualificatif ou un complément du nom. On dira toujours zone torride, polaire, tempérée, ou zone industrielle, résidentielle, commerciale, ou zone orale, génitale, anale, etc. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est face à un essaim de zone qui ne fait pas définition ou face à un terme qui ne semble pas avoir de propriété commune, ou en tout cas qui a toujours besoin d'être qualifié. Et même quand le terme de zone intervient comme étant la zone, ce dont on se rend compte, c'est que, et donc, typiquement dans l'expression en français, de dire « c'est la zone », en fait, ce qu'on a oublié, c'est que cette expression, elle renvoie à une réalité historique et géographique spécifique, qui est la zone de Paris, qui entourait donc la capitale au XIXe siècle et qui était donc une bande de terre non constructible autour des fortifications où s'était réfugiée la population la plus marginalisée. Et donc, même là, on n'est pas face à la chose générale que le nom commun viendrait définir. Et dès que le terme « zone » est employé sans adjectif qualificatif ou sans complément du nom, eh bien, il évoque tout de suite l'indistinct, le vague, l'indéterminé, le mobile. Et donc, on peut rapidement se trouver face à cette difficulté-là. De réussir à déterminer un concept qui, justement, est soit relève de l'indétermination, soit au contraire relève de la surdétermination. Puisque si on appelle une zone zone industrielle, c'est qu'on est en train de la qualifier par un acte même de zonage, en fait. Le zonage sert à donner une spécification, à conférer une qualité à ce qui n'en a pas.
Vraiment, c'est cette phrase qui est assez clé. Nous voilà donc face à un essaim de zone qui ne fait pas définition, effectivement. Et si bien que tu identifies que ce serait l'art, notamment la littérature et le cinéma, qui s'emparerait d'une pensée de la zone et qui rendrait sensible ses caractéristiques, donc l'indétermination, l'anarchisme, la mobilité et la liminalité. Et donc, ça serait par l'art, notamment le cinéma, d'où la première partie de ta thèse qui porte sur une étude de Stalker de Tarkovsky et donc de cette fameuse zone dans laquelle le Stalker va emmener plusieurs protagonistes pour essayer de déambuler dedans jusqu'à atteindre cette fameuse, ce fameux endroit qui permet d'exaucer les souhaits, y compris ceux qui sont les plus incompris par les personnes qui vont s'installer dans cet endroit, on va dire en cœur de la zone. On ne sait pas si c'est le cœur ou pas, mais en tout cas, il y a un endroit dans la zone où on trouve ce lieu-là.
Alors, oui, effectivement. Si je peux revenir peut-être, avant d'entrer sur la question de Stalker plus spécifiquement, peut-être revenir sur un point de méthodologie, qui est qu'une fois qu'on a dit que le concept de zone, enfin qu'il y avait un essaim de zone qui ne faisait pas définition, on est face donc au problème de comment va-t-on déterminer ce concept de zone. Et là, on fait face à un essaim de zone qui ne fait pas définition. Et d'une part, il faut éviter en fait de s'enfermer dans une histoire du concept de zone. Parce que s'enfermer dans une histoire du concept de zone, ce serait soit d'une part chercher à trouver l'origine de ce concept, comme si cette origine pouvait en détenir l'essence. Et là, on tomberait dans un piège que j'appelle une impasse l'impasse du réalisme, et que on voit par exemple à l'œuvre dans le genre de démarche heideggerienne par rapport au travail conceptuel. Mais faire une histoire de la zone, du terme de zone, risque également de tomber dans un autre piège qui est celui du nominalisme, c'est-à-dire de dissoudre le terme dans l'évolution contingente de ces changements de sens et qui nous fait ainsi perdre toute consistance du concept. Et donc, j'ai cherché à trouver une troisième alternative que j'appelle conceptualiste, c'est-à-dire qui, en fait, considère que le concept n'est ni une essence, qu'il n'y aurait pas quelque chose comme de la zone qui existe en dehors du concept et qu'il faudrait trouver le concept adéquat pour pouvoir correspondre à la réalité. Et parce que là, on est dans une conception très idéaliste du langage. Mais qui ne consisterait donc pas non plus, en fait, à une approche conceptualiste, en fait, considérait que les évolutions du terme de zone ne sont pas non plus des accidents de l'histoire. Et donc là, on cherche à éviter le piège nominaliste et à considérer que une approche conceptualiste doit pouvoir rendre compte à la fois de l'hétérogénéité de ce concept, de ses métamorphoses et en même temps de sa consistance. Et qu'en fait, la consistance du concept, elle se situe dans ses transformations mêmes. Et donc ce que j'ai cherché à faire dans mon travail de thèse, c'était donc de pouvoir étudier des champs extrêmement hétérogènes, là où le concept de zone était utilisé, pour pouvoir créer un espace comparatif qui, dans le passage d'une zone à l'autre, dans le passage d'un cas d'étude à un autre, pouvait donner consistance à ce concept. Donc il faut bien clarifier le fait que c'est moi qui fais de la zone un concept. C'est-à-dire que mon travail cherche à produire un concept de zone qui soit opératoire, qui soit capable de rendre compte des transformations et des métamorphoses de ce concept à travers ses opérations empiriques et logiques qu'il effectue dans un certain nombre de champs variés, distincts, hétérogène.
Alors, avant de te réinterroger sur The Stalker de Tarkovsky, peut-être faudrait-il que tu parles des trois grandes parties de ta thèse, parce que ça va te permettre d'exemplifier tout ce que tu viens d'énoncer, qui est vraiment important. Souvenons-nous donc de ce terme que tu emploies, alternative conceptualiste. Et donc, parle-nous de ces trois grandes parties de ta thèse qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que ça signifie.
Alors, du coup, la méthode que j'ai proposé, que j'appelle conceptualiste, a été donc de proposer une analyse transversale des usages de la notion de zone, qui soit à la fois appuyée donc sur un travail d'épistémologie historique, mais de création conceptuelle. Et donc cette analyse transversale, je la mène à travers trois champs, qui est donc le cinéma, ou la science-fiction, et en fait plus précisément un cas paradigmatique pour moi qui est Stalker de Tarkovsky. Ensuite, le deuxième champ que j'étudie, c'est la psychanalyse. Et donc la théorie des zones érogènes en psychanalyse, qui est donc en fait peut-être le domaine qui a le plus théorisé explicitement le concept de zone, et qui a été un sujet de nombreux débats, et qui donc me permet en fait de resituer ce concept au sein d'une théorie pour en faire vraiment émerger les opérations. Et le troisième champ qui m'intéresse, c'est celui donc de la géographie, où là, je traverse de très nombreux objets, puisque je pars de la cosmologie grecque antique pour arriver à la question du zonage dans l'aménagement du territoire, de la création des zones spéciales économiques, mais aussi les zones d'autonomie temporaire, les ZAD, les zones critiques dans les sciences du système Terre, etc. Et donc, l'idée, comme je disais, c'est de ce que j'ai appelé, en fait, c'est une méthode que je nomme zoner la zone, qui consiste à suivre donc ce terme de zone dans différents champs afin de donner consistance à ces composantes hétérogènes en travaillant sur la résonance entre ces champs. Donc l'objectif, et là encore, précaution méthodologique, l'objectif n'est pas de dire qu'à chaque fois, ce qui se passe dans la science-fiction, c'est la même chose que ce qui se passe en psychanalyse, qui est la même chose que ce qui se passe en géographie. Parce que ce serait ennuyeux, en un sens, de simplement répéter en permanence la même thèse et qui, du coup, ne se ferait pas honneur à la spécificité de chacun de ces champs, y compris à la spécificité de leurs problèmes, de leurs objets et de leurs méthodes. Effectivement, il ne fallait pas produire une anthologie de la zone qui donc aurait répété les mêmes analyses pour chacun des cas rencontrés. Il fallait que dans le parcours, et c'est pour ça que je dis que l'intelligibilité de la zone, elle se situe dans la transversalité, dans sa transversalité, dans la manière dont je suis une trajectoire, c'est que l'intelligibilité du concept tel que je le construis se situe dans la manière dont chacun des champs va en fait résonner l'un avec l'autre, non pas parce qu'ils se ressemblent, non pas parce que c'est la même chose qui s'y joue, mais parce que l'on peut identifier des correspondances. Ce qui n'est pas la même chose que des ressemblances, c'est-à-dire identifier des opérations analogues entre elles. Toujours en restant donc à la surface et sans jamais essayer d'atteindre le ciel abstrait des concepts, enfin des idées platoniciennes, toujours vraiment en gardant la zone là même où elle opère et fonctionne, c'est-à-dire là où elle, dans les champs qui sont soumis à l'analyse.
Alors parlons de Stalker et ton étude de Stalker, de ce film de Tarkovsky, parce que ça va nous permettre de mieux saisir grâce à ce film de science-fiction, ce que pourrait être une zone abstraite, qui serait une sorte d'expérience sensible, une expérience sensible pure, comme tu écris. Et cette analyse de ce film-là peut être une bonne approche de ce concept.
Alors, donc il y a... La raison pour laquelle je commence avec Stalker dans ce film, dans ce travail, il y a une part de contingence, effectivement, du fait que c'est ma rencontre personnelle avec la zone. En revanche, j'espère que, à travers ce que je vais expliquer, on verra qu'en fait, il y a une affinité plus profonde entre la question de la zone et, d'une part, le médium cinématographique, mais plus généralement, en fait, avec l'art, à partir de la question de la création. Mais disons que donc dans Stalker, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la zone, d'un point de vue, sa fonction narrative, c'est de pouvoir, en fait, rendre possible le changement dans un monde qui est autrement déterminé. C'est-à-dire que, donc, comme je l'expliquais, dans le film, la zone, c'est là où on se rend pour réaliser des vœux qui autrement seraient impossibles. Et donc, il y a un passage très important au début du film par un des personnages qui explique que lui, il ne croit pas à la zone et il croit qu'il y a simplement les lois d'airain qui gouvernent le monde physique, c'est-à-dire qu'il croit à un déterminisme mécaniste et que une cause, un effet, et qu'en fait tout est donc déterminé mécaniquement par les lois de la nature et qu'il n'est pas possible d'y contrevenir. Or la zone, à partir du moment où on dit que c'est là où des souhaits peuvent réaliser, c'est ce qui en fait permet d'expliquer le problème de la création, du changement réel dans le monde, de quelque chose, de l'événement, du nouveau. Comment expliquer l'émergence de quelque chose qui, effectivement, n'était pas déterminable selon les lois de la nature. Et donc ça, c'est la fonction narrative de la zone. Moi, j'essaye de prendre au sérieux le fait que la zone, c'est un espace qui permet ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la spatialité ? Je dis ça parce qu'en fait, beaucoup d'analyses de Stalker abordent la question de la zone à partir de qu'est-ce que cet espace symbolise ? Est-ce que cet espace symbolise Berlin-Ouest ? Est-ce que cet espace préfigure la catastrophe de Tchernobyl ? Est-ce que cet espace et là, je fais référence à une analyse de Žižek, symbolise le vide lacanien qui soutient toute forme de désir. Toutes ces analyses sont très justes et ces interprétations sont extrêmement convaincantes et pertinentes, mais aucune ne prend littéralement la zone comme espace. Et il y a un passage que je cite de Tarkovsky qui disait qu'il trouvait insupportable les gens qui venaient vers lui en disant « Mais ok, la zone symbolise quoi ?» Et il disait « Mais la zone, c'est la zone. » Donc moi, j'essaye de prendre ça au sérieux et de me dire « Ok, la zone, c'est la zone. Qu'est-ce qu'on sait de la zone ? On sait que la zone, c'est là qui se réalise des désirs, mais on sait que c'est une portion d'espace. Donc quelles sont les propriétés de cet espace qui rendent possible, en fait, le changement, la création, la nouveauté dans le monde ?» C'est paradoxal comme question parce que d'habitude, du point de vue de l'histoire de la philosophie, la question du nouveau, de la création, du changement, c'est une question qu'on associe à la question du temps. Et ça, depuis au moins Bergson, fait la question du temps la catégorie centrale pour penser ce problème-là. Et il fait au contraire de l'espace la forme du déterminisme, du mécanisme, auquel il oppose donc la question de la durée. Et donc dans Tarkovsky, je m'intéresse à la manière dont il construit, d'un point de vue aussi bien narratif que d'un point de vue cinématographique, la zone comme un type de spatialité. Je ne vais pas revenir sur les 60 pages d'analyse, mais ce que je peux déjà donner quelques indications, il construit cet espace comme étant non euclidien. Ça, c'est une chose. Donc, le chemin le plus court n'est pas le plus rapide. Il construit aussi cet espace comme étant indéterminé, d'un point de vue des lois physiques, et il nous dit notamment que, en fait, dans la zone, tout change constamment et que tout dépend, en fait, de l'observation de l'observateur. Donc là, on retrouve un trope, par exemple, de la mécanique quantique. Donc, et ainsi de suite. Et en fait, ce que je montre, c'est que Tarkovsky, donc, par la science-fiction, construit un imaginaire de la spatialité de la zone en empruntant à différents cadres théoriques qui sont, d'un point de vue purement scientifique, complètement divergents et voire incompatibles entre eux, mais que Tarkovsky, lui, le construit grâce au cinéma et grâce à la science-fiction, le construit de manière cohérente d'un point de vue de la spatialité de la zone. Et ce qui nous pousse à conclure à la fin que, en fait, Tarkovsky crée une équation entre la zone comme étant une portion d'espace qui est en fait en mouvement, ce qui est aussi contre-intuitif parce que l'espace est généralement la référence par laquelle on mesure le mouvement, et en fait confère à l'espace un devenir. Qui est même la condition de possibilité du devenir. Et il le fait grâce aux ressources du cinéma, qui est lui-même un médium travaillé par cette question, comme l'avait montré Deleuze à travers ses notions d'image-mouvement et d'image-temps, mais qui, moi, me pousse à proposer la notion d'image-espace pour, en fait, et montrer que, à travers le cinéma, Tarkovsky donne un point de vue à l'espace lui-même et en cela lui confère en fait une forme de subjectivité et d'agentivité et qu'il le fait à travers des propriétés qui en fait permettent de dissocier les différents plans spatiaux et donc de créer un espace sans unité, mais en même temps qui a sa propre puissance d'agir.
Alors c'est là où justement c'est ce qui m'intéresse dans ta recherche, parce que tu mènes cette enquête en mettant la question de l'espace au centre de l'histoire de la modernité. Parce que ta recherche, comme tu l'écris, elle s'inscrit dans l'effort actuel de repenser les concepts métaphysiques clés de la modernité occidentale à l'ère de l'Anthropocène. Et donc, dans cette grande recherche qu'effectuent actuellement la plupart des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et en philosophie, de repenser les concepts métaphysiques clés de la modernité, toi, tu t'empares de ce concept de l'espace, mais à travers celui de la zone. Et ta première étude à partir du film de science-fiction de Tarkovsky, justement, elle permet déjà, on va dire, d'effectuer ce déplacement en disant que la zone est une explication qui suffit à elle-même car elle est sa propre catégorie. Et que c'est, comme tu viens de le dire, un espace en mouvement qui est aussi sa propre condition du devenir. Et donc j'aimerais que tu nous parles un peu de l'environnement intellectuel actuel dans lequel tes recherches ont effectué un déplacement en interrogeant un des concepts métaphysiques clés de la modernité, mais en le déplaçant.
Alors, effectivement, je situe ce travail de recherche sur la zone d'un point de vue de notre contemporanéité, au sens où, premièrement, comme je le disais, il y a pour moi la zone, c'est vraiment inscrite de manière objective au cœur de notre expérience contemporaine du fait de la prolifération de ce terme, que je vois comme un symptôme d'une transformation de notre rapport à l'espace. Mais d'autre part, je considère que c'est aussi un choix personnel, théorique, que d'essayer de démontrer que ce concept de zone, qu'une fois qu'on analyse la manière dont il est mobilisé dans différents champs, il est peut-être particulièrement utile pour nous. Et je ne dis pas que ça fait que c'est son essence, justement, mais qu'en tout cas, d'un point de vue pragmatique et d'un point de vue du moment présent, le concept de zone se révèle particulièrement utile pour penser la question de la planétarité, de la condition terrestre, et que, entre guillemets, ce n'est pas un hasard si ce terme est particulièrement mobilisé, que ce soit d'un point de vue des scientifiques, avec la notion de zone critique, dans les sciences du système Terre, ou d'un point de vue, et a priori qui a complètement rien à voir, militant, comme stratégie des luttes écologistes, avec les ZAD. Et je pense que ce concept est particulièrement utile pour nous parce que, premièrement, il nous permet de penser un espace qui est lui-même mouvant, mobile, et que c'est en grande partie une problématique qui a trait à la question de Gaïa, qui est un espace dynamique, hétérogène, en constante transformation. Que c'est aussi un concept, comme j'essaye de le montrer, qui en fait nous confronte à une non-totalisation de l'espace, qui du coup remet en question le rapport entre local et global, et que là encore, c'est une question qui fait particulièrement sens quand il s'agit de penser la question de ce qu'appelle Isabelle Stengers l'intrusion de Gaïa. Donc je situe ce travail de recherche au prisme donc, d'une question contemporaine qui est l'intrusion de Gaïa, c'est-à-dire l'entrée sur scène d'un nouvel objet philosophique, si ce n'est métaphysique, qui est Gaïa, et dont en fait un grand nombre de penseurs et de penseuses ont mis en évidence que ce nouvel objet nous forçait à changer nos catégories de pensée. Et beaucoup de choses ont été écrites, par exemple, sur la question de la matérialité. Donc je pense entre autres aux travaux de Bruno Latour sur la notion d'actant qui a été ensuite reprise par les nouveaux matérialismes pour mettre en avant le fait que la matière, le non-humain, mais aussi, avait en fait leur propre agentivité et qu'elle n'était pas réservée à un sujet humain. Mais aussi la catégorie de temps. Et là, je pense évidemment aux travaux de Dipesh Chakrabarty, qui a bien mis en évidence la manière dont l'intrusion de Gaïa faisait émerger une hétérogénéité temporelle, enfin des temporalités hétérogènes, incommensurables, qui remettaient évidemment en cause la distinction entre histoire naturelle, histoire humaine, mais qui aussi posent des questions politiques très fortes, dans un contexte où la politique, que ce soit le marxisme ou le libéralisme, sont dépendants d'un cadre, d'une philosophie de l'histoire. Et qu'à partir du moment où ce cadre-là, ce régime d'historicité, comme il l'appelle, s'effondre, eh bien c'est toute notre anthropologie politique qui s'effondre avec elle. Et moi, il m'a semblé qu'il y avait aussi un travail à mener sur la catégorie d'espace. Au sens où... eh bien, l'espace, c'est précisément le contraire du mouvant. C'est l'espace, c'est à la fois le réceptacle, le contenant inerte dans lequel chaque objet matériel, chaque phénomène naturel ou chaque activité humaine a lieu, doit nécessairement avoir lieu pour exister. Parce que si être, c'est être quelque part. Mais que l'espace est aussi une catégorie qui a trait à l'étendue géométrique, à la juxtaposition et à la manière dont, en fait, qui est au fondement de l'idée selon laquelle les choses sont des entités, sont des substances séparées les unes des autres. Et ça, par exemple, l'espace est la condition d'une métaphysique de la substance, puisque dans une boîte d'œufs, la seule chose qui va différencier les œufs entre eux, c'est leur position. Et donc c'est à partir d'une confiance dans la localisation exclusive que l'on va considérer que les objets sont des entités séparées les unes des autres et qu'elles sont en elles-mêmes. Et puis, l'espace, et de manière qui m'intéresse moi tout particulièrement par rapport aussi à ma problématique et à ma propre pratique, l'espace, c'est aussi ce qui fonde la distinction entre la pensée et le monde. C'est-à-dire que la catégorie d'espace, c'est ce qui va fonder, on pense par exemple au cogito cartésien, il y a la distinction entre la chose étendue et la chose pensante, entre la res extensa et la res cogitans. C'est à partir de l'espace que l'on peut fonder quelque chose comme un ordre qui lui soit complètement indépendant et qui serait la pensée théorique pure. Et sauf que cette notion d'espace-là, qui est donc au fondement de la modernité occidentale, aussi bien d'un point de vue philosophique que d'un point de vue scientifique, dans la mécanique classique, par exemple, dans la physique, c'est une conception parmi d'autres de l'espace. Et on a vu, évidemment, émerger à partir du XIXe siècle d'autres conceptions alternatives de l'espace, notamment à travers les sciences, la découverte des géométries non euclidiennes, l'espace-temps de la relativité d'Einstein, l'espace de la mécanique quantique, l'espace non local et discret de la mécanique quantique. Et donc, on est très à l'aise avec l'idée qu'il y a une multiplication, qu'il y a différentes formes de spatialité. Et donc c'est pour ça que pour moi la zone, c'est une forme de spatialité. En rien, elle nous dit la vérité de l'espace et encore moins son essence et encore moins si c'est la bonne spatialité ou la mauvaise spatialité. On pourra revenir là-dessus sur cette question-là. Mais donc aujourd'hui, on est très à l'aise avec le fait qu'il y a plusieurs spatialités. Et il y a même eu ce qu'on a appelé le tournant spatial des sciences humaines et sociales dans les années 80. Alors on peut dater ça un peu des années 60 en France avec des œuvres pionnières comme Michel Foucault, De Certeau, Lefebvre, qui ont fait de la catégorie d'espace une catégorie clé pour penser la production de la vie sociale. Et qui ont mis en avant l'idée que l'espace n'était pas ontologiquement donné, que l'espace était aussi construit, à la fois qu'il est construit d'un point de vue, enfin que l'espace est une histoire conceptuelle évidemment, donc dans les sciences, en philosophie, mais aussi une histoire matérielle, parce qu'il est produit par un certain nombre de phénomènes technologiques, sociaux, économiques, et on le voit très bien avec les transformations opérées par la mondialisation, que l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus le même espace dans lequel vivaient les gens au XVIe siècle. En revanche, disons que là où la spatialité de la zone, telle que je l'ai brièvement résumée, donc cet espace qui est en fait devenir, qui a une puissance d'agir, il se distingue de l'espace comme étendue géométrique, comme référentiel inertiel, donc ça plutôt de la spatialité telle qu'on la trouve dans les sciences, mais également de deux autres conceptions dominantes de la spatialité que nous avons aujourd'hui dans la pensée contemporaine, qui est la phénoménologie, puisque là, certes, dans la phénoménologie, avec notamment les notions d'espace vécu ou perçu, avec les notions de monde, de lieu, on va avoir l'idée d'une spatialité qui est hétérogène, différentielle, qualitative, qui n'est pas l'espace géométrique. Mais c'est un espace, c'est une spatialité qui est dépendante de l'ancrage d'un sujet. Or, avec la zone, en fait, ici, c'est objectivement un espace différencié, qualitatif, hétérogène, en mouvement. Il n'est pas dépendant d'un sujet. Et ça, on le voit très bien dans Stalker, puisque tout est donné cinématographiquement pour conférer à l'espace le statut de personnage, de caméra subjective. Et donc c'est une puissance d'agir en ce sens-là, où ça a une capacité de transformation qui n'est pas dépendante d'un sujet. Ça diffère également de l'autre conception dominante qu'on peut avoir de la spatialité aujourd'hui, qui est celle qu'on va dire matérialiste, d'inspiration marxiste, où effectivement l'espace est certes sujet à transformation, dynamique, du fait des conditions, de la technologie, des processus socio-économiques, de l'organisation sociale de l'espace. Mais dans cette conception matérialiste, on a encore un peu trop l'idée que c'est plutôt le paradigme de l'espace d'Einstein, de l'espace-temps d'Einstein, où on va avoir un espace dynamique, donc sujet à transformation, mais il ne l'est que par des forces extérieures. C'est pas de l'intérieur, de lui-même, que l'espace est... à cette puissance de transformation. C'est une matière passive inerte, en un sens, et pas du tout processuelle, et pas du tout... alors que vraiment, la spatialité zonale, c'est vraiment l'espace lui-même qui se transforme, par lui-même et pour lui-même.
Si bien qu'on... ça peut permettre d'envisager que le concept de zone répond à la question de savoir où se trouve Gaïa. C'est aussi cela dans ta troisième grande partie de ta thèse. C'est comment, c'est la question quand même que posait Bruno Latour, que pose aussi Isabelle Stengers, c'est Gaïa, c'est une sorte de, c'est l'entièreté de la planète Terre, et on a bien du mal à le faire sentir, sans doute parce que les chercheurs, les chercheuses essayent d'inventer les outils pour mieux comprendre ce que peut être Gaïa, en tout cas comment le faire mieux passer. Et on peut comprendre que ce concept de zone permet de répondre à cette question de savoir où se trouve Gaïa.
C'est une question évidemment très importante. Et au sens où Gaïa nous conduit également à revoir notre perception et notre conception de l'espace. Notamment, il y a donc Timothy Morton, le philosophe, hein, qui parle du caractère non local de Gaïa, en soulignant le fait que les phénomènes comme le réchauffement climatique, qui est quand même la manifestation la plus documentée que nous avons du fonctionnement global de Gaïa et de des cycles planétaires, était donc non local, c'est-à-dire que on a été face à des formes d'action à distance. Typiquement, la fonte des glaciers est directement provoquée par l'action des consommateurs dans les pays les plus producteurs d'émissions carbone. Les consommateurs, consommatrices. Et lui, il est face à cette non-localité de Gaïa, le fait qu'en fait, Gaïa n'est pas localisable en un point de l'espace, propose de dire que Gaïa, en fait, est un hyper-objet. Et par ce concept d'hyper-objet, il essaye de dire que Gaïa, dans sa totalité, existe dans une dimension supérieure de l'existence qui est inaccessible à la perception humaine. Alors déjà, c'est une solution très spéculative de répondre de cette manière-là. Et deuxièmement, surtout, en fait, ça pose un problème logique de régression à l'infini, s'il faut postuler que Gaïa existe dans une dimension supplémentaire, eh bien, on est toujours obligé de postuler une autre existence, une autre dimension depuis laquelle on pourrait percevoir Gaïa dans sa totalité et à l'infini, comme ça, dans un processus de poupée russe, d'emboîtement successif, où une dimension nécessite toujours une dimension supplémentaire pour être saisie, parce que c'est la fameuse question de où est l'espace ? Quel est le lieu de l'espace ? Et dès qu'on dit quel est le lieu de l'espace, en fait, soudainement, on suppose un autre espace. Et donc, on est prisonnier comme ça, d'un point de vue ne serait-ce que logique. Et donc, et puis que, troisièmement, en fait, ce concept d'hyper-objet ne rend pas justice au fait qu'à l'immanence de Gaïa, on est en train de réintroduire une transcendance à travers le postulat de cette dimension supplémentaire où existerait Gaïa comme objet total, alors que, et ça je m'appuie beaucoup sur l'interprétation mise en avant par Bruno Latour, Gaïa au contraire nous pousse à postuler une immanence de Gaïa, et Gaïa n'existe qu'à travers ses connexions, qu'elle est distribuée à sa surface même, et notamment comme le résultat, le produit des interactions des vivants entre eux. Et donc, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Latour qui dit « Gaïa est sur Terre ». Et toute la question d'atterrir, c'est justement revenir sur Terre parce qu'il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Et donc, l'idée que la spatialité de Gaïa est une spatialité distribuée en elle-même, à travers elle-même, va avec une forme de méréologie, donc de relation tout partie, qui est singulière. C'est-à-dire que La Tour aimait beaucoup à dire que Gaïa, c'est un tout qui est plus petit que ses parties. En disant cela, en fait, il essayait de se distinguer, de distinguer Gaïa à la fois d'un modèle mécanique, donc le modèle mécanique qui a pour paradigme la machine, dans lequel le tout n'est que la somme de ses parties. C'est-à-dire que vous enlevez une pièce à votre horloge, l'horloge cesse de fonctionner. Et dans ce cas-là, c'est le tout qui est déterminé par les relations que les parties ont entre elles. Mais Gaïa, et ça c'était un combat théorique important de Latour, c'est pas non plus un modèle holiste. Le modèle holiste qui peut exister selon deux versions, soit le modèle organiciste, dont le paradigme est l'organisme, et là c'est l'idée que le tout existe avant la collection de ses parties selon un principe qui organise le tout. Et là, c'est, ça peut être l'âme, ça peut être l'entéléchi, ça peut être l'élan vital, etc. Modèle holiste, ça peut être un modèle cybernétique qui dit au contraire que là, le tout est plus grand que ses parties. Enfin, dans les deux cas, hein, le modèle holiste, c'est que le tout est plus grand que ses parties, versus le modèle mécanique où le tout est la somme de ses parties. Dans le modèle holiste, version cybernétique, l'idée que le tout a des propriétés qui ne sont pas réductibles aux fonctions des parties, dans le modèle cybernétique, ce sont des propriétés qu'on dit émergentes, c'est-à-dire que le tout vient après les parties, versus l'organisme où le tout vient avant ses parties. Mais dans les deux cas, de toute manière, le tout est plus grand que ses parties, et il détermine la nature et la fonction des parties d'entre elles. Et ça, c'est un modèle qui suppose une harmonie de la totalité qui fonctionne de manière harmonieuse. Et qui est un modèle, en fait, téléologique. Et ça, on sait très bien que chez Lovelock et chez Margulis, on passe sans cesse de la métaphore organiste à la métaphore cybernétique et inversement. Et le travail de Latour, mais également, je pense, au travail de Sébastien Dutreuil, par exemple, mais de Timothy Lenton, qui est donc un étudiant, un ancien élève de Lovelock, ça a été de démontrer qu'en fait, Lovelock, ou en tout cas l'hypothèse Gaïa, n'était en rien un modèle holiste. Et donc, pour penser ce troisième modèle-là, Latour parle de l'idée que le tout est plus petit que ses parties. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire qu'en fait, première, que le tout, il est le résultat de la manière dont les parties se connectent entre elles, mais qu'il vient à côté des parties comme en plus, comme étant une entité à part entière. Et que par le fait donc de retrouver le tout comme étant à côté de ses parties, il y a premièrement l'idée que donc le tout a sa propre identité, que Gaïa est donc un actant à part entière qui n'est pas réductible au processus qui la constitue, et que c'est un actant avec lequel nous sommes en interaction et qui est donc un partenaire social, hein, pour le dire rapidement. Mais ce qui veut dire aussi par là, c'est que les parties, si le tout est plus petit que ses parties, les parties, elles sont plus grandes que le tout. Ça veut dire que les parties, elles sont irréductibles à leur collection à l'intérieur du tout, et qu'elles maintiennent en fait une forme de différence par rapport à leur participation au tout. Ça, c'est important pour comprendre que, en fait, on n'est pas dans un modèle harmonieux, mais qu'on est dans un modèle qui est potentiellement conflictuel. Parce que si les parties ne sont pas réductibles à la nature et à la fonction, à la nature et à la fonction qu'elles ont dans leur participation au tout, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer en conflit avec ce tout. Et c'est comme une manière de penser le problème de l'anthropocène, c'est que les activités humaines qui font partie de Gaïa sont en excès par rapport au tout, entrent en conflit et en fait mettent en danger le tout dont elles font partie, mais auxquelles elles sont irréductibles parce qu'elles maintiennent en fait leur propre agentivité également. Que leur agentivité n'est pas réductible en fait à leur participation à Gaïa. Donc on est face à un modèle que moi j'ai proposé d'appeler totalité partielle, qui est un modèle qui en fait a à voir avec la notion de tout ouvert que l'on retrouve chez Bergson. Mais chez Bergson, évidemment, c'est temporel, alors que la notion de totalité partielle, pour moi, est un modèle spatial. Dans la totalité partielle, comme on peut le voir, en fait, dans les anciennes formes de totalité, que ce soit la totalité mécanique ou la totalité holiste, on est face à un tout de composition. Et donc, des parties qui sont incluses dans un tout. Et donc, on retrouve ce que je vous disais sur le problème des poupées russes, en fait. Alors que, soudainement, dans une totalité partielle, là où le tout est à la fois une partie à côté de ses parties, et les parties sont elles-mêmes des touts, ou en tout cas sont irréductibles à leur statut de partie, et qu'elles gardent leur identité, et donc leur différence, et donc leur hétérogénéité. Là, on est dans un modèle, en fait, spatial de coexistence. et non plus d'emboîtement ou de composition ou d'englobement. Et ce modèle de coexistence-là nous permet de penser que le local et le global, en fait, coexistent au même niveau et interagissent les uns avec les autres sans, en fait, être un problème d'échelle. Alors évidemment, la question, du coup, serait de savoir qu'est-ce qui différencie peut-on encore parler de partie? Peut-on encore parler de tout? Peut-on encore parler de local? Peut-on encore parler de global? Alors ça, c'est encore un chantier à déterminer. Mais en tout cas, la forme de spatialité de la zone permet de penser ce modèle méréologique-là.
Alors, j'aimerais qu'on aborde aussi un point particulier. Tu t'attardes aussi sur les ZAD, les zones à défendre, qui reprennent des caractéristiques des TAS, ces zones d'autonomie temporaire qu'avait conceptualisé le penseur Akinbe. Et donc ces ZAD, ces zones à défendre, articulent ces enjeux, mais de manière terrestre, c'est-à-dire qui intègrent la Terre comme actant politique. Peux-tu nous parler de la manière particulière des zones à défendre, qui sont un certain type de zones, et qui sont actuellement fortement d'actualité?
Alors, je vais prendre la question un tout petit peu à rebours en partant des TAS, parce que par ailleurs, je pense qu'en parlant donc des zones d'autonomie temporaire théorisées par Akinbe, de pouvoir aussi un peu plus expliciter ce que j'entends par totalité partielle et cette idée d'une coexistence des tout et des parties, d'un tout qui est plus petit que la somme de ses parties et des parties qui sont plus grandes que leur participation dans un tout. La TAS, chez Akinbe, répond à un problème très concret qui est le problème de la fermeture de l'espace global. C'est-à-dire que finalement, donc c'est un texte qui date des années 80-90, oula, j'ai oublié, j'ai plus la date en tête.
C'est assez ancien, effectivement.
Oui. C'est au moment, en fait, il ne le dit pas, il n'utilise pas le terme de néolibéralisme, mais en gros, ce qu'il a en tête, c'est le néolibéralisme. Et c'est le fait que, en gros, tout espace a été conquis par l'État et par le marché, et que la seule manière, en fait, d'initier un changement social, et donc là, on retrouve la problématique essentielle de toute réflexion zonale, qui est la question du changement, du devenir, de faire changer quelque chose. Et donc, Akinbe théorise l'idée qu'il faut donc libérer des espaces, créer des zones qui en fait vont avoir un régime, qui vont en fait obéir à des lois. Là encore, on retrouve cette notion très importante de loi qui ne sont pas les lois dominantes. C'est-à-dire qu'on va libérer donc des espaces du marché et de l'espace, du marché et de l'État. Et donc, qui vont avoir un statut d'exceptionnalité. Et à partir de là, on va pouvoir créer de nouvelles normes dans ces espaces-là, donc de nouvelles formes de socialité, des nouvelles manières d'organiser les relations sociales, mais aussi de, en fait, du point de vue des questions terrestres, de produire, de cultiver la terre, etc., qui vont en fait être des laboratoires d'expérimentation, soit parce que, dans l'objectif, en fait, de faire retour sur la totalité dont la partie s'est extraite, pour pouvoir en fait impulser ce changement, cette révolution qui ne passera pas par les outils du marxisme-léninisme. Et donc, soit parce que c'est pas l'idée d'ailleurs, l'idée c'est pas qu'on va produire de nouvelles normes, créer de nouvelles formes de socialité, de production, de systèmes de parenté, etc., qui vont être généralisables par ailleurs. C'est pas du tout ça l'idée, c'est pas de créer un modèle et de le généraliser ensuite. C'est plutôt soit de donner un caractère d'exemplarité et de dire qu'en fait, il existe un dehors du capitalisme, il existe un dehors de l'État, et l'existence de ce dehors-là, en fait, va de lui-même mettre en branle la tentative de totalisation du marché et de l'État à travers la forme contemporaine du néolibéralisme ou du capitalisme mondial intégré. Donc on retrouve bien ici, au niveau d'un point de vue formel, l'idée que la zone, la TAZ, c'est une partie qui est irréductible au tout dont elle est prélevée, puisqu'elle fait, elle va avoir un statut d'exception, d'extériorité, mais qu'elle va, en fait, en s'extrayant de la totalité, agir sur la totalité elle-même, sur le reste de l'espace. C'est-à-dire que c'est pas de l'autarcie. L'autonomie, c'est pas de l'autarcie. L'autonomie, ça a vocation, quand même, à changer le monde. Il y a quand même cette idée-là encore. Les ZAD reprennent exactement ce principe-là, en tout cas s'inscrivent dans cette généalogie de ce que certains appellent l'hypothèse autonome, et donc de ce fonctionnement-là qui fonctionne par cette spatialité-là, qui est toujours donc de faire advenir un changement dans le monde à partir d'une certaine forme de la spatialité, qui est celle de ce que j'appelais la totalité partielle, ou d'une partie en excès par rapport au tout, sur lequel elle va faire retour. Mais cette fois-ci, ce qu'elles intègrent en plus, effectivement, c'est la question de Gaïa, qui n'est pas présente dans le cadre théorique des TAZ, puisque dans le cadre théorique des TAZ, les formes globales auxquelles les TAZ ont des réponses, c'est le marché et l'État, ou le capitalisme mondial intégré.
Et donc, la particularité de ces ZAD qui vient après les TAZ, c'est véritablement cela, le problème de la catastrophe climatique et écologique, et d'être des zones qui, certes, sont décrites comme étant à défendre, mais qui sont censées avoir, dans les luttes politiques, une autonomie propre à faire comme si, dans ces zones-là, il pouvait y avoir une présence de Gaïa.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'autant le combat des TAZ, hein, c'était de résister au capitalisme mondial intégré, et autant en faisant exister des alternatives et en inscrivant en fait la différence dans la structure même du tout, et donc de travailler sa virtualité par le possible, autant les ZAD, elles le font à partir de l'enjeu, donc le changement global qu'elle vise, c'est un changement terrestre, c'est un changement au niveau des dynamiques planétaires de Gaïa. Non pas que ça veut dire que c'est pas lié à la question du capitalisme, parce que on le sait tous très bien que la catastrophe écologique que nous vivons actuellement est historiquement liée à un certain mode de production économique, à une certaine forme d'organisation sociale qui est historiquement et géographiquement située en Europe occidentale, et bon, qu'on veut le faire commencer au XVIe ou à la révolution industrielle, et que c'est lié donc à un mode de vie spécifique. En revanche, la question du capitalisme ne résout pas la question écologique, au sens où abolir le capitalisme ne sera pas suffisant en fait à résoudre la crise des conditions d'habitabilité de la planète. Et c'est là où je pense que les ZAD vraiment intègrent la Terre elle-même comme actant politique et non pas simplement comme un effet du capitalisme ou du capitalocène.
Et donc j'aimerais que nous concluions cet entretien par cette phrase. Tu écris en conclusion: j'attribue à la zone un potentiel de navigation de la coexistence terrestre. Et il me semble que cette phrase permet de comprendre ton travail de recherche, qui est pour moi plutôt un début, un commencement, et que j'imagine va continuer pour essayer de savoir où se trouve Gaïa, et que ce concept de zone peut être prometteur. Merci beaucoup, Jeannette Lin.
Merci à toi.